Parmi les personnes qui sont discriminées en termes d'emploi, ce sont les handicapés qui sont le plus discriminés par rapport aux étrangers, par rapport aux plus de 55 ans.
Ce n'est pas nouveau. Les personnes handicapées ont toujours autant de mal à trouver un emploi. À 4% chez nous, le taux de personnes handicapées exerçant effectivement une profession est l'un des plus faibles d'Europe. Il existe pourtant de nombreux leviers d'insertion socio-professionnelle placés à la disposition de ces personnes. Pourquoi alors est-il toujours aussi compliqué pour elles d'entrer dans le monde du travail? Avant d'entrer dans le vif du sujet, Thierry Conrads, lui-même porteur d'un handicap, présente certains avantages qu'une entreprise peut tirer de l'intégration d'une personne handicapée au sein de ses employés.
L'avantage, c'est d'abord de dynamiser son vivier de compétences. Donc, outre les avantages qui peuvent être financiers, à savoir des aides à l'embauche, il y a surtout des aides à l'aménagement du poste de travail, si besoin en est. Mais ces aides sont très peu utilisées. Donc, généralement, il y a très peu de demandes de remboursement d'aménagement du poste de travail. Il y a des aides dans les charges sociales. Et il y a surtout aussi des aides si une perte de rentabilité est révélée par la personne engagée. Je m'explique, c'est-à-dire que si, par exemple, tétraplégique va mettre plus de temps pour aller à la photocopieuse, va mettre plus de temps à se déplacer ou quoi, on peut évaluer la perte de rendement par une personne valide. Et cette perte de rendement, si elle est évaluée par exemple à 50%, eh bien 50% du salaire est pris en charge par la région qui octroie le subside.
Si le taux d'emploi de personnes handicapées est aussi faible, c'est en majeure partie dû au manque d'informations dont disposent les entreprises sur le sujet. Pour combler ce manque, la région bruxelloise a lancé willit.be, une plateforme internet de e-recrutement à destination des employeurs et des personnes handicapées à la recherche d'un emploi. Les cabinets de Benoît Sérex, ministre de l'Emploi et de l'Économie, et d'Evelyne Heutebroek, ministre de l'Environnement, de l'Énergie, du Tourisme et de l'Aide aux Personnes, se sont associés pour mettre en place cette plateforme. Outre la région, ce sont aussi de nombreuses entreprises privées qui se sont liées au projet. Benoît Sérex distingue Willit de ses homologues destinés à l'ensemble des demandeurs d'emploi.
Alors, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle ne concerne évidemment que les personnes handicapées. Et donc, on veut justement éviter ce frein, cette peur que peut avoir une personne handicapée d'être refusée a priori par un employeur au travers de ce lieu de rencontre qu'est cette plateforme entre les employeurs et les personnes handicapées. Et dans cette plateforme, les personnes handicapées pourront mettre leur CV en ligne, pourront avoir un certain nombre d'informations, rentrer en contact avec des employeurs. Et du côté des employeurs, ils pourront évidemment trouver les CV qui sont disponibles et aussi disposer d'une banque d'informations sur toutes les aides, les réductions de cotisations sociales qui existent lorsqu'on engage une personne handicapée.
Willit constitue donc une CVTech, sorte de bibliothèque de CV, avant tout destinée à élargir le champ de prospection des entreprises. En effet, Willit met l'accent sur la compétence et non sur le handicap. Les employeurs ont donc davantage de chances de rencontrer un profil adéquat, sans discrimination positive ou négative à l'égard des personnes handicapées. Les responsables de Willit espèrent ainsi soulever les nombreux freins qui séparent candidats et employeurs.
Il y a à la fois un frein du côté des employeurs qui ne savent pas très bien comment s'y prendre lorsqu'ils souhaitent engager une personne handicapée. Et d'autre part, chez les handicapés, il y a un frein à prendre contact avec le monde du travail parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être directement éliminés sur base de leur handicap.
L'initiateur de Willit, Thierry Conrads, est en bonne place pour nous parler des frais occasionnés par une telle situation. Il nous fait part d'un frein supplémentaire à l'embauche d'une personne handicapée.
Si Willit maintenant lève les freins du côté des entreprises en apportant une information complète sur les subsides dont elles peuvent bénéficier lors de l'engagement d'une personne handicapée, ce qu'il y a aussi, c'est que Willit veut surtout aussi lever les freins du côté candidat, c'est-à-dire donc des personnes handicapées, en permettant de pouvoir conserver l'allocation lors de la mise au travail. Parce que pour l'instant, en tout cas, pour celles, les personnes handicapées qui sont indemnisées par la Vierge Noire, donc par le fédéral, elles perdent pour l'instant l'allocation. Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on est moins handicapé et que donc on a moins de frais liés à son handicap. Et en plus, comme je dis finalement, par rapport à une personne valide qui effectue le même travail et qui a le même salaire qu'une personne handicapée, ben, le pouvoir d'achat est différent, puisque je dois compenser dans mon salaire, je dois compenser la perte de cette allocation. Donc j'ai un pouvoir d'achat diminué par rapport à la même personne qui fait le même boulot que moi et qui a le même salaire. Donc vraiment, ça, c'est un combat de Willit, faire du lobbying, si je puis dire, auprès des politiques, pour vraiment lever ce frein-là et permettre la conservation de l'allocation de personnes handicapées lors de la mise au travail.
Si Willit répond à un besoin évident d'information et de communication de la part des deux parties, il ne résout pas ce problème des allocations. Aussi absurde que cela puisse paraître, la question des allocations est, sinon évitée, à peine évoquée du côté politique. Elle est pourtant déterminante dans la démarche d'une personne handicapée qui souhaite retrouver du travail. La perte de cette allocation constitue un véritable piège à l'emploi. Autre victime de cette politique de l'autruche, les services sociaux des centres de traumatologie et de réadaptation. Partagés entre la réinsertion socio-professionnelle et l'obtention de cette allocation pour leurs patients, ils ne savent plus sur quel pied danser. Bruno Glory, assistant social au CTR Bruckmann.
Notre plus grosse difficulté en tant que travailleur social au CTR, c'est qu'on prône l'autonomie, on prône la réinsertion pour la personne handicapée, mais elle comporte quand même une grosse difficulté dans le sens où on est en première ligne pour obtenir, je veux dire, pour une personne handicapée, son allocation d'intégration ou remplacement de revenus. Et c'est assez contradictoire dans le sens où remettre une personne sur le marché de l'emploi, ben, lui enlève tous ses droits au niveau de son allocation. On est vraiment dans un paradoxe où on se demande que faire et donc que conseiller à la personne. Donc je pense qu'il faudrait que nos pouvoirs politiques se posent la question comment remettre sur le marché de l'emploi sans qu'une personne perde tous ses droits au niveau de ses allocations.
Bruno Glory évoque également le manque de suivi des patients une fois la rééducation terminée. Il existe bien une cellule de réinsertion socio-professionnelle au sein du CTR. Il nous explique ce qu'il est prévu pour les personnes qui souhaitent récupérer leur ancien emploi.
Nous tenons compte des aptitudes physiques, de la pathologie du patient, et donc nous l'orientons vers différents services, formations à devoir être amenés à faire. Mais les contacts, je dirais proprement dit, avec l'employeur ne sont pas forcément faits. Ce qu'il nous arrive de faire, et ça malgré tout fréquemment, c'est quand une personne travaillait, subit, je veux dire, un traumatisme, c'est d'être amené à visiter avec elle son ancien employeur et son lieu de travail pour voir quels sont les aménagements à pouvoir apporter. Donc généralement, l'assistant social et l'ergothérapeute font ce type de visite et voient avec l'employeur quelle est la possibilité pour adapter au mieux pour la personne son poste de travail.
Cela semble très maigre. En réalité, il apparaît clairement qu'un gros problème de dialogue se situe entre les pouvoirs publics d'une part et les personnes de terrain d'autre part. Mais alors, que font les politiques ? Véronique Gailly, conseillère politique à l'aide aux personnes handicapées au cabinet d'Evelyne Heutebroek, balaye l'éventail des mesures entreprises sur la région de Bruxelles.
Différentes actions sont menées. Alors il y a des actions plus ponctuelles comme l'action Willit, la plateforme Willit qui a été subventionnée et cofinancée avec la région bruxelloise et la COCOF. Il y a également des mesures d'aide à l'intégration à l'emploi qui sont des mesures octroyées par la COCOF pour ce qui est de la population bruxelloise francophone. Et ces mesures viennent évidemment en complément d'une législation beaucoup plus large de droit au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la Commission communautaire française, de la COCOM, il y a également un service qui s'appelle le service bruxellois francophone personnes handicapées, qui est d'ailleurs très récemment, aujourd'hui, on annonce d'ailleurs la campagne, donc ce service sera baptisé Phare. Et il a déjà un nombre très important de personnes handicapées en son sein. C'est un peu comme si ce service spécialisé avait déjà eu cette préoccupation d'engager ce public-là.
Et Benoît Serex de préciser les prochains objectifs à atteindre pour son cabinet.
Je veux vraiment faire en sorte que le taux d'emploi des personnes handicapées augmente ici à Bruxelles. Je veux aussi que les autorités publiques, les administrations, nos communes ici à Bruxelles respectent plus les obligations légales qu'elles ont en termes d'engagement de personnes handicapées. 3% de leur personnel, aujourd'hui on doit bien constater que cette obligation n'est pas respectée.
À ces engagements s'ajoute également la conviction personnelle bien visible au sein du cabinet de la ministre Evelyne Uyttebroeck.
Est-ce que votre équipe a une personne handicapée ?
Alors, ici au cabinet de la ministre, oui, nous avons des personnes qui sont handicapées. On est bien au-delà de 2%.
Malgré tout, la coopération entre les différents acteurs de l'aide aux personnes handicapées est certainement moins évidente. Politiques et acteurs de terrain ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Les pouvoirs publics se battent sans cesse pour élargir les droits au travail des personnes handicapées. Ils souhaitent augmenter les taux d'emploi minimum dans l'administration publique, que Véronique Gailly verrait bien s'élever à 5%. Ils vont même jusqu'à augmenter les primes à l'employeur pour l'aménagement d'un poste de travail adapté. De leur côté, les professionnels de terrain luttent pour qu'une personne handicapée puisse conserver son allocation une fois qu'elle a trouvé un emploi, ce qui semble bien légitime. L'éventuel trou dans la caisse de la sécurité sociale engendré par une telle réforme est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on n'ose pas s'engager dans cette voie. D'un autre côté, avec un pouvoir d'achat supérieur, ces personnes seront amenées à consommer davantage, un moyen pour l'État de récupérer une part de sa contribution. C'est en tout cas sujet à débat. Une divergence de point de vue qui doit certainement trouver une solution dans le dialogue entre les deux mondes, un dialogue peut-être encore trop fragile.
Et pour le moment, qu'est-ce qu'on peut déjà trouver sur Willit ? On peut déjà trouver des CV, des offres d'emploi ?
Là, aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre.
D'accord.